l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Pierre Hazan, bien connu des membres de la communauté juive de Strasbourg, notamment parce qu'il gère un service de navette entre Strasbourg et l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Il vous emmène quand vous partez en voyage. Là, il va nous parler d'un voyage, un peu particulier. Il était pour les fêtes juives en Israël, à Ashkelon précisément, dans sa famille, voir son père. Il va nous raconter comment est-ce qu'il a vécu les événements, ces événements du 7 octobre, et peut-être juste remettre dans le contexte de ce qu'il faisait à ce moment-là, ou quelques heures avant, à Ashkelon, en Israël. Bonjour Pierre Hazan.
Bonjour Valérie Vial, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc je m'appelle Pierre, je suis content d'être devant vous Valérie pour témoigner un petit peu. C'était un peu l'objet de notre échange qui a précédé cet entretien. Et oui, j'ai à cœur, quelques 3 semaines après mon retour d'Israël, de raconter simplement ce que j'ai vécu et des choses à la fois belles et bien sûr terribles que j'ai vécues.
C'est important aussi de le dire, ces 3 semaines après votre retour, oui. Parce que vous aviez besoin de ce temps aussi pour certainement trier vos idées, pour ne plus être, on va dire, dans de l'émotion pure, parce que c'était compliqué, on a voulu le faire tout de suite, c'était pas possible. Oui. Donc là, aujourd'hui, vous avez...
Je suis un peu plus apaisé.
Gérer toutes les informations.
Voilà, je suis un peu plus apaisé. Les choses sont un peu retombées. Bon, un peu seulement, parce que je continue d'être informé de ce qui se passe, comme tout un chacun. Et oui, c'est un choc d'être réveillé un samedi matin par une alarme d'une puissance qui dépasse les 110 décibels. Pour vous donner une indication, moi qui travaille dans les aéroports, un avion qui décolle, c'est 103 décibels. Donc, et ça fait du bruit un avion qui décolle, hein. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit un avion à 2 ou 4 réacteurs. Alors là, c'est encore plus que ça. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'être réveillé, ce qui a été mon cas. À 6h30, pétante, j'ai sauté de mon lit avec l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine, ne comprenant pas ce qui se passait. J'étais en plein sommeil. Et en moins de 2 secondes, on comprend ce qui se passe parce que... Enfin, j'exagère en disant en moins de 2 secondes. En moins de 24 secondes, on comprend ce qui se passe, puisqu'au bout de 24 secondes, après l'alarme, les premières explosions retentissent. Donc voilà comment a démarré ce samedi matin 7 octobre. Effectivement, comme vous disiez Valérie, j'étais parti en Israël pour des vacances, une semaine de vacances. Ça faisait à peu près un an que je n'avais pas pris de vacances et là j'étais content d'avoir pris la décision de laisser tomber un peu mes navettes pour l'aéroport de Bâle et aussi l'aéroport de Baden. Et puis de m'offrir une semaine pour aller visiter mon père, qui est un homme en forme, mais relativement âgé maintenant. Et donc, je voulais passer du temps avec lui, ce qui a été le cas, sans aucun problème, du mardi où je suis arrivé au vendredi soir. Y compris, je vous le racontais à l'instant hors antenne, j'étais le vendredi soir, la veille, nous nous promenions avec mon neveu dans la ville d'Ashkelon, où réside mon père et où je passais mes vacances. Et puis, on s'est promené près de la marina. C'est une ville de bord de mer, Ashkelon, au bord de la Méditerranée, bien au sud d'Israël, hein, puisqu'on est à 13 kilomètres du nord de la bande de Gaza. Et en nous promenant, on a sympathisé le temps de 2 ou 3 minutes avec une famille d'Arabes qui n'étaient pas israéliens, qui venaient de Gaza. Et oui, à Ashkelon, il y a des Arabes qui vivent en toute tranquillité et qui sont très bien acceptés par la population israélienne et juive. Et on a échangé, ils terminaient leur pique-nique sur les bords de la marina et on s'est dit bonsoir. Et voilà, c'était simple, cordiale conversation. Et je disais à mon neveu, après, t'as vu quand même, c'est extraordinaire, on a des gens ici avec un kéfier qui ont terminé leur repas et puis qu'ils vont rentrer. Il était tard, hein. Il était minuit passé facilement. Voilà, donc c'est une petite anecdote juste avant l'explosion de violence et d'horreur.
Et donc vous avez été réveillé le samedi matin, voilà. Par les tirs de roquettes, par les alarmes également.
Oui, oui, ça a duré non-stop 3 heures.
Vous aviez un abri ?
Oui, l'appartement qu'occupe mon père à Ashkelon est au 8e étage d'un immeuble relativement récent qui a une quinzaine d'années Et déjà à cette époque-là, il était obligatoire dans les nouveaux immeubles d'avoir dans chaque appartement une pièce renforcée, qu'on appelle miklat ou mamad selon les termes en Israël, qui est une sorte d'abri, de pièce renforcée. Cette pièce, elle n'est pas à toute épreuve, mais elle permet d'être beaucoup plus en sécurité que dans un abri, une pièce non abritée. Voilà. Donc il y a effectivement cette sécurité et on est censé, à partir du moment où il y a les alarmes, aller se mettre dans cette pièce.
Ce que vous avez fait,
Pas systématiquement,
vous faisiez des
malheureusement,
allers-retours dans
oui,
cette pièce?
voilà, exactement, exactement. Pas systématiquement parce que ça fait 15 ans que mon père occupe cet appartement et ça doit être la sixième ou septième fois qu'il y a des tensions fortes. Bon, cette fois-ci, c'est pas comme d'habitude. Cette fois-ci, c'est une vraie guerre, malheureusement. Ouais, donc voilà, pour vous donner l'ambiance, ouh, ça commence comme ça. Après 10 secondes, 20 secondes, c'est boum, boum, boum. Et là, vous êtes saisi, quoi, d'effroi, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Et puis, ça continue 3 heures comme ça. Imaginez juste 3 heures, toutes les 30 secondes, une alarme, et donc toutes les 30 secondes, en alternance, des explosions. Et donc, on allait de la pièce au balcon. Au balcon, j'ai pris quelques photos. On a vu autour de nous des incendies qui démarraient, des fumées noires, et puis le silence de mort.
Les gens étaient tous rentrés chez eux à ce moment-là.
Absolument tout le monde et personne dans la rue, personne dans la rue. Comme un confinement généralisé, ça parlera aux auditeurs d'Europe occidentale. C'est un confinement, ni plus ni moins, qui s'impose de lui-même. Il n'y a pas besoin d'avoir des informations, des autorités. Les gens comprennent, ils ont malheureusement l'habitude. Et donc voilà, on est parti pour. On ne le sait pas encore, hein. Mais à ce moment-là, on est parti pour une guerre. On est
Et à quel moment
dans une
vous
guerre
avez
qui
pris
commence.
justement conscience du conflit, de ce qui se passait exactement, qu'il y avait ces attaques massives terroristes?
Alors, ça, on l'a su par la radio. Les attaques massives terroristes, on l'a su par la radio et la télévision. Quelques heures plus tard, on n'a pas trop bougé les 3 premières heures, pour vous dire la vérité.
Oui, vous aviez peur?
Oui, bah oui. Surtout que mon père est habitué, mais là, au bout de 5 minutes, il a dit: Ah, c'est pas du tout pareil que d'habitude, la puissance de feu est beaucoup plus grande, les intensités des explosions sont beaucoup plus importantes. Et il s'était pas trompé. Effectivement, voilà. Donc les 3 premières heures, saisis, attentifs pour pas qu'il nous arrive quelque chose. Et en même temps, curieux de voir ce qui se passe, l'ampleur de la chose, donc des coups d'œil au balcon, des allées et venues entre le balcon et la pièce renforcée. Voilà. Et c'est parti. Et puis ça va continuer jusqu'à ce que je quitte Israël le mercredi soir suivant. Pour répondre à votre question, qui était que comment ça se passait, comment on était informé. Oui, on l'a pas été tout de suite, on l'a été par la radio après. Et je dois vous dire que pire que les bombes, les missiles qui passent et qui sifflent et qui explosent, c'est le moment où on apprend que des terroristes sont entrés dans le territoire israélien. Parce que ça, c'est pas courant d'habitude. Il y a des tirs régulièrement, mais il n'y a pas cette invasion. Et donc, on ne sait pas encore, bien sûr, tous ces massacres qui vont avoir lieu, qui ont lieu à ce moment-là, en vérité, mais on ne le sait pas. Mais on apprend très vite, effectivement, par la radio. Donc, dès 10 heures du matin, on sait qu'il y a des terroristes, qu'il y a des mechablim, comme disent les Israéliens. C'est le mot en hébreu pour dire terroriste, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est la vraie peur. Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas même pas sortir, on ne sait pas si on ne va pas trouver en bas des gens qui sont dangereux et qui peuvent nous tuer à vue.
Vous fermez votre porte à ce moment-là,
Oui.
vous la blindez de plus d'un meuble
Oui,
devant, par
mon
exemple?
père a eu le réflexe d'aller fermer à clé la porte. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que bon, les gens se connaissent plus ou moins dans l'immeuble. Il n'y a pas non plus des grandes effusions. Les Israéliens sont assez discrets,
Pudique, hein.
pudiques. Et puis bon, chacun est avec sa famille. Il n'y a pas comme en France des rapports de voisinage aussi développés, tout en étant très respectueux.
Oui.
Mais bon, et donc, mais Par contre, il y a une telle tranquillité, une telle sécurité que la porte de l'appartement peut être ouverte. Elle donne sur le couloir du 8e étage et il n'y a pas de problème. Là, la porte a été refermée à clé tout de suite. Je dois vous dire que j'ai dû aller chercher un peu plus tard dans la journée des courses, des provisions que nous avions faites et qu'on avait laissées dans la voiture au pied de l'immeuble. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur comme rarement j'ai eu peur dans ma vie. Et j'avais peur pour faire 15 mètres à l'extérieur du bâtiment. Il y a même une personne que j'ai vue, vous savez, les juifs séfarades, c'est-à-dire les juifs originaires d'Afrique du Nord, et les arabes sont très proches physionomiquement. Oui,
clairement.
Moi, je ne sais pas du tout distinguer un arabe d'un juif. Et là, c'était le cas. Il y avait quelqu'un qui était près de la poubelle. Je me suis dit, mais qui c'est lui? Vous voyez, mais
ouais,
c'est la terreur, quoi.
J'ai peur de tout le monde.
Ben oui. J'ai couru pour ouvrir la voiture, mais c'est vrai. J'ai couru, j'ai pris les deux sacs, je suis rentré. Et quand je suis remonté dans l'ascenseur pour aller au 8e étage, j'ai soufflé, quoi. Bon, voilà.
C'est un sentiment que vous aviez, ça, déjà?
Non.
Quand vous alliez en Israël avant?
Non.
Jamais?
Non. Non, 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 jamais. Je suis allé deux étés, au moment où il y avait des... Je crois que c'était l'opération Plomb Durci, ça s'appelait à l'époque. J'étais quand même allé voir mon père. Je faisais partie des gens qui n'avaient pas renoncé à son voyage en Israël. Je n'ai pas vraiment peur. Je connais Israël depuis très longtemps. Je me sens vraiment chez moi là-bas, même si je suis uniquement citoyen français et pas citoyen israélien. Je n'ai pas fait mon alia. Mais bon, j'ai pas peur d'habitude, je n'avais pas peur. Aujourd'hui, les choses sont radicalement différentes. Oui, on a vu après ces massacres excusez-moi. On a vu après ces massacres combien les choses sont radicalement autres et qu'aujourd'hui, on est dans une situation où Hamas et bien d'autres veulent nous tuer. J'allais dire veulent nous annihiler, veulent nous exterminer. C'est terrible de dire ces mots-là, vous rendez compte? C'est absolument terrible. On est en 2023, on est plus de 80 ans après. On va fêter la libération, commémorer plutôt, je devrais dire, la libération d'Auschwitz dans moins d'un an. Enfin, non, un peu plus d'un an, 14 mois. Comment on peut à la fois faire tout un travail de mémoire et s'associer à des organisations d'événements autour de la libération de cette Auschwitz dont on a toujours pensé que c'était l'innommable, c'était l'impensable qui avait eu lieu et qu'il fallait en parler et faire témoigner tous ceux qui sont en mesure de témoigner. Dieu sait s'il en reste peu, je veux dire, des survivants qui ont vécu les camps de la mort à Auschwitz. Et là, c'est dingue, c'est absolument fou de penser que des gens ont été massacrés. Je n'ai pas les mots, je suis désolé.
Il n'y a pas de mots, on les a toujours pas trouvés.
On les a toujours pas trouvés.
Ils n'existent pas dans le dictionnaire.
Voilà, ils sont aussi de cet ordre innommable qui était déjà caractéristique de la Shoah et de Auschwitz. Alors vous vous rendez compte, on parle du 7 octobre 2023 où c'est un véritable pogrom, n'ayons pas peur des mots. J'ai entendu plusieurs fois des gens le prononcer. La première fois qu'il était prononcé, ça m'a fait frémir. Mais c'est vrai, c'est la stricte vérité. Ce sont des choses innommables, encore une fois. Ça, c'est nouveau et ça, c'est inquiétant. Alors, c'est l'objet de mon témoignage aujourd'hui, d'alerter, d'informer, de dire ce que j'ai vu. On peut peut-être... Je ne sais pas si on a encore un peu de temps.
On va le prendre le temps.
Dire quelques mots sur un peu plus concrètement comment se sont passés ces quelques jours. Mais effectivement, le message peut-être aujourd'hui, trois semaines après, il est chers concitoyens, chers auditeurs, chères personnes qui écoutaient ces mots, soyez bien conscients que vous aussi, vous faites partie d'une période absolument terrible qui va avoir des conséquences et qui peut potentiellement avoir des conséquences sur tout un chacun, juif bien sûr, ou non juif. Et je vous demande d'être autant vigilant que je demande à mes propres amis et co-religionnaires de l'être. la situation dans laquelle nous nous trouvons en Europe et particulièrement en France est critique. Voilà. Et donc, vaillance et vigilance.
Vous avez peur ? Vous êtes en colère ?
Non, j'ai pas de colère aujourd'hui. Peur à Strasbourg, non. Mais comme je viens de le dire, je suis
vigilant.
Très attentif. Oui, très attentif. Écoutez, j'étais stupéfié. J'ai pris le bus il y a 2-3 jours. Les messages dans les bus de la CTS à Strasbourg, c'était attention, vigilance, rouge, écarlate ou je ne sais plus quelle couleur. Écarlate, je crois, attentat. En cas de au moindre problème, appelez le 17. Mais enfin, mais où est-ce qu'on a vu un bus, dans un bus, écrire où c'est écrit appelez le 17, appelez la police secours ? Je veux dire, ça me rappelle quand j'étais petit et qu'on allait avec mes parents en Israël et qu'il fallait faire attention quand on montait dans les bus au Hafetz Rachouv, ça veut dire les paquets piégés. C'est comme ça que à l'époque, le terrorisme palestinien s'illustrait en faisant des attentats dans les bus. Et ben, aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Strasbourg. Enfin, vous rendez compte, à Strasbourg. Ce qui se passe, Dieu merci, il n'y a pas de bombe à Strasbourg.
Oui. En Israël, oui. C'est ce qu'on peut craindre sur le sol français un jour.
Mais j'en ai peur, oui. Ben, enfin, c'est ce qu'on a déjà vu sur le sol français lors des attentats du Bataclan, lors de Charlie Hebdo, lors de l'Hypercacher, lors de Mohamed Merah. Enfin, la liste est longue. La famille Monsonego à Toulouse, Madame Knoller, enfin Madame Halimi. Enfin, écoutez. Ça a déjà bien commencé. Alors, c'était ponctuel, c'était oh bah oui, bon bah les Juifs, d'accord, leurs histoires habituelles. Non, là c'était absolument odieux que ce soit comme ça, pensé comme ça. Mais là, ça peut devenir, ça peut se généraliser et devenir massif, avec une crainte pour des attentats en France, évidemment. Enfin, je suis un simple citoyen, mais je m'informe et je lis les journaux et j'écoute la radio. Tous les jours, on est conscient, en écoutant les médias, qu'il y a des mesures très fortes qui sont prises par les autorités, et par les autorités du ministère de l'Intérieur, et la police, et la gendarmerie, et les forces de sécurité françaises, pour pallier à d'éventuelles choses terribles. Voilà. Oui, bien sûr, on doit craindre ça.
Pour revenir à Israël, votre père, qui est toujours dans son appartement à Ashkelon,
oui.
Vous avez des nouvelles, les communications ne sont pas rompues du tout.
Non.
D'ailleurs, dans ce conflit aujourd'hui, il ne l'est pas du tout, c'est même la guerre des images, mais ça c'est un autre,
oui.
Ça, c'est
oui,
un c'est autre juste. Sujet. Comment est-ce qu'il le vit aujourd'hui ? Il se sent en sécurité, il vit normalement, il a repris ses activités ?
Non, la vie n'est pas redevenue normale à Ashkelon. J'ai mon père, j'essaye de l'avoir à peu près une fois par jour au téléphone. Alors, les communications, effectivement, existent. Il faut juste savoir quand même qu'il y a des moments où c'est quand même la guerre. Et qu'il y a des moments où les communications ne passent pas. Ça, c'est une réalité. Il y a des moments où on est coupé dans les conversations. Elles sont, je ne veux pas dire brouillées, j'en sais rien, mais enfin, elles ne sont pas aussi fluides que d'habitude. Mais néanmoins, c'est juste, on arrive à se parler à peu près comme on veut, et une fois par jour. Écoutez, il y a des jours où il reste 2-3 jours de suite sans sortir de chez lui. Il n'y a pas grand monde dans les rues. À l'heure actuelle, on n'est plus dans une phase intense de bombardements et de missiles. Qui arrive sur Ashkelon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y en a pas plus que 10 par jour. Enfin, juste quand même, imaginez quand vous êtes tranquille à Strasbourg, ce que ça voudrait dire, 10 missiles qui tombent autour de vous par jour.
Il y en aurait un seul, ce serait terrible.
Ce serait effectivement, et puis insupportable, ne serait-ce qu'un seul, totalement inadmissible et insupportable. Alors là, vous voyez à Ashkelon, 10 par jour, c'est rien. Samedi 7 octobre, il en est tombé 700 en 3 heures. Voilà. Donc, voilà, mon père, j'aimerais bien qu'il revienne, qu'il soit en sécurité un peu plus ici. Mais en vérité, je ne sais pas si la sécurité est vraiment si grande que ça en France en ce moment et à Strasbourg en particulier. Sans vouloir inquiéter, je veux dire, c'est pas spécifiquement lié à Strasbourg. Hein, le pays entier, la France, est inquiète parce qu'il y a un soupçon d'attentat important. Voilà, donc j'aimerais bien quand même que mon père soit avec nous. J'ai le reste de la famille ici, j'ai ma sœur, ma mère, donc ce serait bien que mon père soit là aussi.
Vous avez vu des projets, vous, de reprendre l'avion pour pas
Oui,
tout de suite?
pas tout de suite, mais j'espère, si je peux, retourner en décembre pour le voir et puis peut-être cette fois-ci le convaincre de rentrer avec moi. Voilà, ouais. Bon, mais encore une fois, Ashkelon aujourd'hui, c'est pas du tout revenu complètement à la normale. Il y a des moments où ça l'a été, il faut être honnête. Je sais qu'un matin, il a pu sortir, mon père, et aller en voiture au petit café où il a l'habitude d'aller d'habitude tous les matins à 10h30. Il retrouve ses amis, c'est le club du quatrième âge. Ils ont le plus jeune a 82 ans. Et donc, c'est leur plaisir. Ils prennent un café, une soupe, c'est rigolo. Moi, ça me fait sourire. Ben oui, même dans un pays chaud, ils prennent leur petit café, un petit croissant, et la serveuse qui les connaît bien leur apporte un verre en plastique ou en maïs, je sais pas, avec de la soupe dedans. Juste, ça leur fait le démarrage du repas de midi. Ils sont adorables. Ouais.
Pierre Azan, merci infiniment de ce témoignage, de nous avoir raconté le quotidien de la vie à Ashkelon, de votre retour ici, de vos impressions, votre sentiment. Et écoutez, notre antenne, bien évidemment, vous est ouverte si vous avez, vous, envie de témoigner et de nous raconter la suite, peut-être, on espère, heureuse de votre papa. Alors, on ne parle pas évidemment de la situation politique en Israël. On est vraiment sur une histoire d'un homme aujourd'hui, votre papa en Israël, et vous qui êtes revenu pour nous raconter ce qui s'est passé. Merci à vous.
Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.